Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Aujourd'hui, l'Église célèbre le mercredi des cendres, moment important de l'année liturgique qui signe l'entrée en carême. Quelques mots qui, pour beaucoup de nos contemporains, sont comme du chinois. Et c'est peut-être pour cela que cette année encore, la Basilique Saint-Sernin a donné carte blanche à deux artistes pour nous aider à entrer dans ce temps si particulier. Deux artistes des marges de l'Église catholique, un peintre adepte du graphe, cet art de la rue subversif, et une théologienne protestante, et à l'arrivée des peintures et des textes qui secouent. Des peintures qui font comme mettre en relief les calvaires aux portes de nos églises. Des textes qui jettent un pont entre ce Dieu que l'on peut avoir tendance à mettre en boîte et qui nous échappe. Le chemin de croix 2020 à Saint-Sernin, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous en parler, ils sont presque au complet, car tous les artistes ne sont pas là. Antoine, on est très content d'avoir au moins ceux qui sont là, je m'en mêle les pinceaux. Antoine Gamard, vous êtes artiste, bonjour.
Bonjour.
Parlez bien près du micro. Vincent Gallois, vous êtes prêtre et curé de la Basilique Saint-Sernin, bonjour.
Bonjour.
Et donc n'a pas pu être présent Marion Muller-Collard, à qui on donnera la parole, enfin en tout cas on citera ses textes, qui est donc écrivain et une théologienne protestante. On la présentera un petit peu plus loin dans l'émission. C'est un rendez-vous régional presque, ce chemin de croix de la Basilique Saint-Sernin. Il me semble que je vous ai déjà posé la question les années précédentes. Vincent Gallois, est-ce que c'est aussi le but? Vous me disiez en préparant l'émission juste avant qu'en fait la Basilique Saint-Sernin attire des gens bien au-delà du quartier, de la parole géographique. Cette exposition a vocation à parler à tout le monde au-delà du centre-ville de Toulouse.
Bien sûr, oui, cette exposition, elle est pour tous d'abord. Et la Basilique Saint-Sernin accueille dans ses célébrations des gens du quartier, mais des gens de toute la ville et bien au-delà, puisque les gens de passage viennent souvent à la messe à Saint-Sernin, parce que la basilique est un lieu qu'on aime voir vivre et elle vit avec la célébration liturgique. Mais c'est vrai que ce chemin de croix, il s'adresse bien sûr aux Toulousains, aux paroissiens de Saint-Sernin, ils l'ont vu en place déjà maintenant, mais il s'adresse aussi à tous ceux qui s'intéressent à l'art et tous ceux qui, ne sachant pas qu'il est là, mais vont visiter la basilique Saint-Sernin, vont se laisser saisir par ces toiles qu'Antoine a composées, a créées. Et voilà, c'est le message que l'Église célèbre, spécialement en ce temps de carême, qui est présenté dans le langage qu'Antoine exprime, et je le remercie d'avoir bien voulu mettre son travail, son style et son talent au service de la méditation de la passion du Christ.
Alors c'est une exposition donc, qui s'appelle Scriptura Crucis. C'est une exposition qui est exposée donc depuis hier, qui sera inaugurée demain soir et qui court donc jusqu'au 12 avril prochain, dimanche de Pâques, donc dans la basilique Saint-Sernin, c'est dans les allées latérales. Avant qu'on parle un petit peu des deux artistes, parlez-nous encore de Saint-Sernin. Peut-être que tous les auditeurs ne sont pas encore, enfin se sont baladés dans Toulouse, mais n'ont pas encore visité cette basilique, ce chef-d'œuvre d'art roman. Comment vous nous la présenteriez si vous deviez faire une petite balade virtuelle?
La più bella chiesa, une très belle église. Et qui aujourd'hui est mise en valeur par l'aménagement que la municipalité a fait autour de l'église avec cette place Saint-Sernin. Enfin, on a une place Saint-Sernin et qui est un véritable écrin à cette basilique. Voilà, vraiment. Donc moi, je suis très, très heureux de cette mise en évidence. Et beaucoup de Toulousains n'ont pas encore vu les travaux à achever. Alors je les invite à redécouvrir leur église. La basilique est vraiment la basilique de tous les Toulousains, et la découvrir dans ce nouveau cadre qui la met en valeur, qui permet d'avoir de nous approcher davantage alors qu'auparavant il y avait des grilles, et d'avoir des points de vue différents sur l'église. Enfin vraiment, c'est une réalisation qui aide à bien recevoir ce magnifique monument.
Chef-d'œuvre d'art roman, ça veut dire quoi? Si vous deviez nous donner un ou deux exemples ou...
D'abord, c'est une église de très grande dimension, parce qu'elle est d'une dimension d'une cathédrale, elle est de l'époque justement où on construisait les cathédrales, hein, c'est ça qui fait la particularité de Saint-Cernin, et c'est la plus grande église romane qui demeure. Alors il y a eu plus grand, c'est Cluny III, mais Cluny III a été détruite à la Révolution. Et Saint-Cernin, vraiment, exprime cette perfection de l'art roman. Et il y a une unité à Saint-Cernin qu'il y a rarement dans un édifice roman, parce que malgré les 200 et quelques années de la construction, tout l'édifice suit le même plan. Il y a une unité de construction qui fait de Saint-Cernin un édifice remarquable.
C'est aussi le lieu donc, où sont conservés les restes de Saint Saturnin, donc, qui est premier évêque de Toulouse, pour ceux qui n'auraient pas encore noté ça, donc mort martyr au IIIe siècle. Mais on parlera peut-être du martyr de Saint Saturnin une autre occasion. Alors on va parler, présenter un peu les deux artistes avant de présenter l'exposition. Et puis au long de l'émission, moi, dans la deuxième et la troisième partie, on essaiera de décrire les œuvres. C'est toujours une difficulté. Et puis de citer les textes de Marion Muller-Collard. Antoine Gamard, vous n'êtes pas, comment dire, vous êtes bavard sur votre art, mais peu sur vous-même. Et vous avez raison parce que vous le laissez parler. Alors je vais le faire à votre place et puis je vous laisserai apporter une ou deux corrections ou précisions. Donc vous êtes diplômé des Beaux-Arts de Paris. Vous me direz comment vous vous définissez, hein, puisque les termes sont complexes. Vous avez travaillé dans la publicité et puis donc vous êtes un artiste et vous cherchez, on a l'impression toujours une plus grande liberté, puisque vous me disiez maintenant que vous aviez décidé aussi d'arrêter de travailler avec un certain nombre de galeries. Votre art décrit souvent, donc il y a beaucoup de graffiti, le monstre urbain qu'ont engendré nos villes, avec des animaux dans vos toiles. Comment vous présenteriez un petit peu votre travail artistique ?
Alors je dirais que je suis un artiste humaniste, je suis ouvert sur le monde, et je trouve passionnant, et même ça a énormément de sens, que cette exposition Scripturae Crucis ait lieu en ce moment à la Basilique Saint-Cernin, parce que c'est une exposition qui réunit art, culture et foi.
Alors juste sur votre art, donc vous faites quoi ? Donc vous n'êtes pas graffeur, vous ne faites pas de street art, mais vous faites du graffiti. Vous pouvez expliquer sans rentrer trop dans les détails.
J'ai été passionné par le graffiti quand j'étais enfant, comme plein d'adolescents à mon époque. C'est ce qui m'a ouvert sur le monde de l'art contemporain. J'ai eu la chance de pouvoir faire les Beaux-Arts de Paris, où j'ai pu éprouver ce que c'était que d'être artiste. Je venais des mathématiques avant, et je me suis, à cette époque, en 99, investi dans le courant balbutiant naissant du street art.
Voilà, le street art, si vous deviez dire en deux, trois mots, c'est quoi le street art?
C'est la deuxième vague du graffiti. On est entre le graffiti et l'art contemporain. C'était pour cette jeunesse dont je faisais partie à l'époque, une façon de s'exprimer qui m'a amené à m'interroger sur le rôle de l'art et des logos dans l'art contemporain.
Alors on va y revenir, parce que c'est vrai que c'est original. Marion Muller-Collard, si on doit la présenter donc à sa place, c'est donc un écrivain, peut-être connu de certains auditeurs, une théologienne protestante, voilà, de talent, qui a été primée entre autres, qui a reçu un prix, le prix Écriture et Spiritualité, c'était en 2015, pour un ouvrage intitulé « L'autre Dieu, la plainte, la menace et la grâce ». Vincent Gallois, puisque vous êtes censé un petit peu la représenter, mais il faut bien parler un petit peu à sa place, comment vous la présenteriez, puis pourquoi est-ce que vous l'avez choisie, elle?
Alors je l'ai choisie parce que d'abord, quand je cherche un auteur, je me renseigne sur divers talents, et on m'avait parlé d'elle, j'ai écouté des interviews qu'elle avait faites, et j'ai trouvé qu'elle avait une manière de parler de l'humanité, de parler de la foi, qui m'intéressait. Et j'ai trouvé, c'est vraiment cette... d'abord, c'est la première fois que je sollicite une femme pour composer ses méditations, et j'en suis très heureux. Et elle a accepté de faire ces méditations. Alors c'est vrai que le chemin de croix, c'est pas un exercice habituel chez les protestants, et elle a relevé le défi de cet exercice, et je crois qu'elle a fait une méditation qui est très originale. Et en même temps, il y a quelque chose une réflexion sur le corps que je trouve très, très profonde.
Sur le corps et sur la parole.
Sur le corps et sur la parole, bien sûr, sur la parole. Et il y a un refrain qui revient dans ces méditations qui est très beau et qui conduit toute sa méditation autour de la parole. Mais aussi, voilà, il y a le corps. Hein. Le corps, c'est aussi une traduction de la parole. Et ça, c'est vraiment une belle réflexion qu'elle nous partage.
Voilà, c'est presque de la poésie. On va regarder. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi aussi, on imagine que ça n'est pas par hasard, de travailler avec Antoine Gamard. Et puis, cet art, donc, ce cri des marges, comme dit à propos du graffiti, Antoine Gamard.
Alors je cherche chaque fois, enfin l'idée directrice, c'est quel est le langage aujourd'hui qui pourra atteindre ce que l'Église n'atteint pas habituellement. C'est pas pour faire ce qui a déjà été fait. Et lorsque j'ai rencontré Antoine lors d'une exposition à Toulouse, eh bien je trouvais que son travail était intéressant et avec son écriture, son graffiti. Et je trouvais que ça disait quelque chose d'un mode d'expression contemporain. Je souhaitais que ce mode d'expression qu'Antoine exerce se saisisse du mystère de la passion. C'est ça l'objectif. Alors je remercie vraiment cette écriture, et une écriture parce que son style, sa technique, vraiment c'est ce que j'englobe sous le mot écriture. Et il nous donne vraiment à entrer d'une manière très contemporaine dans le chemin de croix. Alors ce qui est intéressant, c'est que Antoine et Marion ne se sont pas rencontrés.
Alors c'est quand même quelque chose. Il faut aussi dire que c'est très généreux de la part des artistes, puisque Antoine a travaillé.
Il a fait.
C'est un cadeau qu'il fait à l'Église.
Alors c'est son œuvre. C'est son œuvre.
Il a travaillé quoi, 6
mois. C'est un cadeau.
Mois.
Après, en même temps, ça me permet de montrer mon art. Et alors c'est sûr que je mets cette esthétique graffiti, mon travail, au service.
Non, mais je le dis au cas où certains auditeurs auraient des suspicions que l'Église a encore les moyens de passer des commandes à des grands artistes. ce n'est pas tout à fait le cas.
Ce qui me touche dans ce projet, c'est une rencontre à la base qui s'est faite dans l'ouverture à l'autre et dans la joie. Et j'espère que ça fera écho quand les personnes viendront voir ce chemin de croix.
Vous étiez. Je vous ai coupé, vous voulez finir?
Alors c'est vrai qu'Antoine et Marion ne se sont pas rencontrés. Et lorsque Marion a vu les tableaux d'Antoine, quand je lui ai envoyé par Internet les photos, elle a été, c'est ce qu'elle m'a répondu, par mail, elle a été saisie parce que elle travaillait justement dans sa méditation sur l'effacement de la parole dans le chemin de croix, comme le Christ, la parole se tait peu à peu. Et quand vous voyez le travail d'Antoine, vous avez à la fois cette écriture et aussi cette parole qui s'efface. En particulier, quand on regarde la première station, on voit ce texte qui s'efface peu à peu. Et donc, il y a eu vraiment, alors qu'ils ne se sont pas rencontrés, alors qu'ils n'ont pas travaillé ensemble, ils ont retrouvé le même thème, ils ont exprimé chacun le même thème avec leur langage.
C'est un match.
C'est un match.
On pourrait dire comme ça.
Antoine Gamard, si vous deviez nous présenter un petit peu davantage le graffiti, donc ce que vous appelez le cri de la marge, qu'est-ce que c'est que cet art? Quelle est sa particularité pour ceux qui connaissent pas bien?
Donc toutes les représentations du chemin de croix s'inscrivent sur un fond fait de graffiti. Et donc c'est une esthétique contemporaine que je défends depuis plusieurs années. C'est un leitmotiv dans ma peinture, dans ma pratique. Et je trouve passionnant que cette exposition ait lieu à Saint-Cernin, parce que je crois que quelque part c'est peut-être la première fois que le graffiti se retrouve dans un lieu de culte.
Alors juste, le cri de la marge, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en général, ces artistes, leur dernier souci, c'est justement d'être dans les lieux institutionnels ou dans les lieux reconnus ou
Disons que le début du graffiti, c'était un courant qui réunissait des gens où la notion d'argent était totalement absente. Les gens qui œuvraient pour cette culture faisaient ça pour la fame, pour la reconnaissance de ses pairs. Et c'était c'était une contre-culture à la base, qui a permis à plein de jeunes de s'épanouir et de fuir la pauvreté. Parce que il faut pas oublier que le ghetto vient des États-Unis, et on est dans la fin des années 70-80 à New York, où on se rappelle tous les rames de métro graffées. Ce sont des jeunes défavorisés, des cultures minoritaires. Et donc c'est évidemment, oui, le graffiti, pour moi, c'est le cri de la marge, c'est le cri de ceux qui n'ont pas d'écoute. Et associer graffiti et foi, et voir cette exposition à Saint-Sernin, oui, je pense que ça fait sens. En tout cas, pour moi, je trouve ça sublime quelque part, parce que au-delà de l'art et des peintures, de l'objet, ces œuvres vont servir à la liturgie de l'Église.
Vincent Gallois, c'est aussi le rôle de l'Église, donc de proposer un art qui se veut pas du tout bourgeois, transgressif, accessible à tous. Si vous deviez...
Alors, c'est pas mes catégories, mais quand Antoine parle le cri de la marge, l'Église est à la marge. Voilà, je veux dire, l'Église, elle est à la fois une institution avec son histoire et son autorité, mais aujourd'hui, en 2020, en février 2020 où nous sommes, nous sommes hyper marginaux. Hyper marginaux. Et le travail que fait Antoine avec son graffiti, avec son art, ça rejoint aussi l'Église comme dans son expression très, très marginale. Voilà, dans son expression où on est à la périphérie de ce monde. Et je trouve que la contribution d'Antoine, c'est pour les chrétiens qui sont habitués à notre langage, et bien de s'ouvrir à une expression différente, et pour tous les visiteurs qui entreront dans la basilique, et bien d'être saisis par un langage qui les touche par ailleurs déjà. Et ce que ce langage marginal vienne s'exprimer dans l'Église, c'est une manière de donner à l'Église le langage de ce temps. Voilà, c'est ce qui m'intéresse.
Scriptura Crucis, c'est donc une exposition à voir donc à la Basilique Saint-Sernin. On va faire une première pause musicale et puis on va vous retrouver. On va s'arrêter sur quelques-unes des stations. Exposition donc, que vous pouvez retrouver jusqu'au dimanche de Pâques. Et puis ceux qui voudraient venir pour l'inauguration, c'est demain soir à 18h30 en présence des artistes et aussi de Monseigneur Robert Legall, archevêque de Toulouse.
Thank you.
Emmanuel Pella.
Le chemin de croix à Saint-Cernin, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Si vous nous rejoignez, nous sommes avec Antoine Gamard, l'un des deux artistes de cette exposition, et Vincent Gallois, prêtre curé de la basilique Saint-Cernin. Nous parlons donc de cette exposition intitulée Scriptura Crucis, qui donc est exposée depuis hier, et ce jusqu'au dimanche de Pâques. On va donc se lancer dans cette visite virtuelle, dans cette magnifique basilique Saint-Cernin. On s'arrêtera donc sur quelques stations, pas toutes, pour entrer aussi en ce mercredi des cendres un petit peu dans ce que les chrétiens sont amenés à contempler. Si on s'arrête sur la première station, alors je vais essayer de décrire et puis je vais vous laisser compléter l'un et l'autre. Donc c'est la première station est grise avec un fond blanc, avec donc des graffitis en fond. Et puis il y a comme des écritures, on a l'impression que c'est... il y a quelque chose de très formel, comme un compte-rendu, ça pourrait paraître être un compte-rendu de prime abord, et puis quelques mots apparaissent, Jésus répondit, écoute, surtout Jésus. Alors si on reste sur la description, avant de parler donc des commentaires de Marion Muller-Collard, Antoine Gamard, qu'est-ce que vous diriez de plus pour essayer de donner à voir à l'antenne et à la radio cette première station?
Alors la première station, Jésus est condamné à mort. Donc on retrouve un texte tiré de l'évangile selon Jean qui vient s'imprimer sur un fond fait de graffiti. Ce texte commence à... Des parties du texte commencent à s'effacer, restent un petit peu apparentes mais de façon suggestive, et des bribes de mots apparaissent par-ci, par-là. Et donc c'est un travail, une réflexion sur la mémoire pour entrer dans ce chemin de croix.
Vincent Gallois, si vous deviez ajouter une ou deux choses, peut-être juste pour continuer à décrire.
C'est vrai que ce texte qui apparaît disparaît. En fait, les mots qui restent sont des mots qui n'ont pas encore disparu, tandis que les autres sont comme quand on change de police sur un ordinateur et que tout d'un coup le texte s'efface parce que la police ne reconnaît pas les lettres qu'il y avait précédemment. Ben voilà, le texte s'efface et que quelques mots émergent. Et quand dans le thème, voilà, Jésus est condamné à mort, il est condamné à se taire. Et c'est ça qu'on peut saisir de cette illustration de cette première toile.
Alors c'est aussi donc le thème de fond des commentaires de Marion Muller-Collard, donc cet écrivain et cette théologienne protestante. Si on doit citer quelques passages, tu parlais encore lorsqu'une tache mouvante comme l'ombre projetée d'un nuage, écrit-elle, coordonnée comme un vol d'étourneau, te prit dans son filet. Et puis un petit peu plus loin, il te reste quelques heures pour fabriquer avec un suc de mots qui te survive, séparer la chair du verbe. Une phrase très forte, ça séparait la chair du verbe et le rendre incorporable à souhait pour tous. Qu'est-ce que ça appellerait comme autre commentaire, Vincent Gallois?
Mais vous l'avez souligné, hein, séparer la chair du verbe, c'est à la fois le travail que le Christ va faire, puisque elle a gardé dans comme refrain « Toi encore parlant » qui va revenir... dans toute sa méditation, et c'est cette méditation articulée sur la parole et le corps. Voilà. Et comment la passion du Christ va être ce travail de séparation de l'un et de l'autre. Voilà. Il y a une belle réflexion, une belle méditation là-dessus. Et j'avoue que voilà, il faut entrer dans cette méditation avec elle tout au long de ces stations.
C'est peut-être l'occasion aussi de redire, donc en ce mercredi décembre, que pour ceux qui ne connaissent pas complètement la vie de Jésus, c'est que plus la fin est proche, plus le silence est grand. Vous pouvez dire quelques mots peut-être là-dessus?
Alors c'est vrai que le chemin de croix nous conduit... Dans la méditation de Marion Muller-Collard, vraiment dans ce silence où, puisque au départ la parole, elle est encore dans le Christ, à la fin la parole, voilà, le Christ se taira pour que nous ayons la parole. C'est vraiment ce mouvement qu'elle nous partage, qu'elle nous fait contempler.
Si on avance, quatrième station, en tout cas c'est celle que j'ai choisie, Jésus rencontre sa mère. C'est une station qui vous est particulièrement chère, Antoine Gamard. Là aussi on retrouve des écritures, ou en tout cas on a l'impression, un fond d'écriture. Ce n'est pas le cas de toutes les stations. Les graffitis derrière sont plus sombres, comme souvent. Hein. On peut presque avoir l'impression que c'est comme le mal ou c'est comme une foule. Derrière, il y a quelque chose d'oppressant. C'est peut-être aussi un peu la ville. Hein. Et puis donc, il y a comme une ombre projetée. Alors, vous allez nous expliquer quel est le procédé. On devine le Christ et sa mère, ou en tout cas, puisque c'est la station, on essaie de la deviner. Expliquez-nous la manière dont vous avez travaillé, peut-être. Qu'est-ce que c'est que cette impression sur fond de graffiti?
Alors cette station, elle est particulière parce qu'elle combine la partie, elle reprend des éléments de le processus de création de la station 1 du chemin de croix, et on est déjà dans le chemin de croix, c'est la quatrième station. Et j'ai l'impression que pour moi, c'est comme si c'est le point de départ. C'est vraiment que là tout va se nouer, en tout cas. Pour moi, en tant qu'artiste, c'est à partir de cette station que je pense que j'ai compris les enjeux de ce projet. Et donc, j'y ai mis beaucoup de choses personnelles, de vécu. Et il y a eu quelque chose de libérateur, de salvateur, ce qui m'a permis de pouvoir continuer et d'accomplir ce chemin de croix.
Sur le procédé artistique, vous m'avez dit c'est une impression UV sur toile, c'est ça?
Alors le fond est fait à la main, il y a un premier passage, une couche monochrome, après je reviens avec une bombe de peinture aérosol pour saturer le fond d'écriture. C'est un enchaînement de mots qui, une fois imbriqués les uns dans les autres, aboutissent à une abstraction totale. Et sur ce fond, en troisième couche, vient s'imprimer une impression UV. C'est-à-dire que j'utilise la machine pour imprimer sur un fond fait à la main. C'est la combinaison de...
Alors vous me disiez que ça avait un sens aussi, quand on s'est baladé pour regarder l'exposition hier ensemble, à la Basilique Saint-Sernin, que de faire intervenir la machine, ça n'était pas complètement anodin.
Je ne sais plus, qu'est-ce que je vous ai
dit. Ah bon
dit.
Vous me disiez que, de même que l'art du graffiti était, on va dire, un art de la ville, de faire intervenir les machines, ça dit qu'il y a aussi les contraintes de nos vies, d'être pris dans un monde où il y a de multiples, où la technologie est omniprésente.
Je pense qu'il y a quelque chose de très contemporain, parce que la machine fait partie de notre quotidien. En tout cas, elle va de plus en plus être présente, et donc elle fait partie de notre monde. Et donc intégrer ce processus mécanique à ces écritures faites à la main, je trouvais que c'était intéressant de réunir ces deux procédés, que ça faisait sens aussi, que finalement, parce que bon, les toiles célèbre finalement mettre en avant la parole du Christ. Moi, j'ai fait ce travail en toute humilité. Je m'efface maintenant. Les peintures sont faites, elles sont données à voir. Et ce qui est important, c'est la relation qu'aura chaque spectateur avec chaque station. Et le fait de procéder, d'intervenir avec une impression mécanique, il y avait quelque chose de très contemporain. Je trouve même que c'est culotté et ça fait référence aux travaux de Walter Benjamin aussi, sur quelle place a l'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité mécanique.
Alors si on cite Marion Muller-Collard, « Soudain, tu n'as plus mal nulle part ailleurs qu'à elle. Elle se tient le ventre comme une femme en travail, et tu songes encore au bord des mots qu'il y a tout de même une chose à côté de laquelle passe ton incarnation, c'est l'incandescence d'un corps qui donne naissance. » Voilà, on va dire qu'il y a en tout cas une seule marque de tendresse et de consolation au long de ces méditations, c'est la présence des femmes, et en l'occurrence de sa mère. Qu'est-ce que ça attire de votre côté comme commentaire, Vincent Gallois?
Alors c'est une femme d'abord, c'est une mère aussi qui a écrit ce texte. Et une mère d'ailleurs, et c'était le Marion Muller-Collard, hein, nous l'a livré dans son livre « L'autre Dieu », une mère qui a été éprouvée par la maladie d'un enfant. Et elle a vraiment eu une épreuve humaine et spirituelle dans ce livre et la relation. Et on entend ici quelque chose d'abord de son expérience lorsqu'elle écrit « Les mères sont de grandes empêcheuses de mourir ». Voilà, il y a quelque chose de cette expérience proprement maternelle et féminine qu'elle nous partage. Et puis, il y a aussi le regard d'une théologienne. J'aime beaucoup lorsque elle nous partage voilà, « De biais, tu fais rouler tes yeux exorbités par l'effort vers ce corps dont tu peines à croire qu'il a pu t'abriter, toi l'inabritable. » Et là, voilà, il y a la théologienne qui nous partage sa réflexion de ce dialogue imaginé entre la Vierge et le Christ à ce moment-là de la Passion. Voilà, je trouve que c'est un des lieux particuliers de la contribution singulière que Marion Muller-Collard nous apporte.
Je propose, avant qu'on fasse une deuxième pause, donc on s'arrête sur la cinquième station. C'est donc Simon de Cyrène qui aide Jésus à porter sa croix. C'est un Simon de Cyrène qu'on devine peut-être plus difficilement. En tout cas, sa silhouette. Il y a en tout cas quelqu'un à côté du Christ. Toujours un fond, on va dire la moitié supérieure donc, du tableau presque saturé donc, de graffiti noir. Là, les silhouettes se détachent un peu plus. Il y a plus de couleurs. Il y a du vert, il y a du rose, un orange pâle, du jaune. On a l'impression qu'il y a, voilà, il y a presque quelque chose de plus chaud au milieu de quelque chose qui devient toujours plus noir. Antoine Gamard, même si vous n'êtes pas friand de l'exercice, si vous deviez décrire un petit peu plus ce tableau pour le donner à voir pour les auditeurs, qu'est-ce que vous diriez ?
Ah, dur exercice. Je vais revenir à la station 4. En fait, où je vous disais que...
D'accord, mais le but du jeu, c'est quand même de décrire la 5. Mais allez-y, je vous fais confiance.
C'est une façon pour moi, de décrire la 4. C'est-à-dire que cette station est très importante, elle a fait sens, et à partir de ce moment-là, je suis rentré vraiment dans ce processus de création, et j'ai commencé à être dans un état de faire. C'est-à-dire que, je vous ai dit, j'ai passé deux mois à me documenter, et à partir du moment où il a fallu commencer à créer... C'est comme si j'ai arrêté de réfléchir. J'étais dans une relation instinctive avec la peinture. Donc les toiles se sont venues, sont apparues. Et la station 4 en est un bon exemple.
La station 5, vous voulez dire?
La station 5, pardon. C'est, cette station, elle existe parce qu'il fallait qu'il y ait une station 5 et elle...
Alors la description juste, si vous deviez décrire
alors,
un tout petit peu plus.
La description, on y retrouve un petit clin d'œil à une parabole, à la parabole du grain. Qui se retrouve en terre, et vu que c'est Simon de Cyrène qui revient des champs, on peut dire qu'il y a peut-être quelques graines qui vont se retrouver à côté de Jésus et qui vont tomber en terre. Et donc là, je passe la
voilà, alors donc les silhouettes...
Au Père Vincent.
Alors le Père Vincent, si vous pouvez un tout petit peu plus décrire, qu'est-ce que vous voyez, vous?
Alors c'est
Vincent
vrai Gallois. Que ce fond de graffiti en arrière ici est épais, il est noir, il est très dense. Alors on voit des écritures, mais c'est vraiment très très dense. Et ces graffitis donnent une impression très, un peu oppressante hein, aussi. Et, et devant, donc au premier plan, il y a ce qu'on reconnaît de deux personnages, hein, le Christ et la... Et Simon de Cyrène.
En tout cas, on distingue une silhouette nette.
Voilà, on distingue une silhouette.
Et presque une croix aussi.
C'est vrai que dans son travail, Antoine a fait des silhouettes effacées. On reconnaît, on devine, mais c'est pas une image qui s'impose, c'est pas une image qui se définit complètement. Ce qu'il nous propose de saisir, c'est de deviner des éléments de silhouette. Alors là, on les devine assez bien, on devine bien la croix, parce que voir, c'est excessif. On devine la croix, on devine les personnages, et on devine une rencontre de ces deux personnages, Simon de Cyrène, qui va aider Jésus à porter la croix.
Alors très belle citation, très belle méditation. Moi j'ai trouvé à côté donc de Marion Muller-Collard. Je l'ai cité ce matin en teasing de l'émission. Je le redis. Et dans ce chaos, c'est un extrait. Donc dans ce chaos de syllabes que la légèreté soudaine convoque sous ton crâne, il faut dire donc que Marion Muller-Collard tutoie Jésus. Hein, elle lui parle comme si elle parlait à un ami. Hein. Et dans ce chaos de syllabes que la légèreté soudaine convoque sous ton crâne, tu penses quelque chose que tu n'avais pas encore pensé. Et en quoi tient pourtant ta raison d'être homme? La véritable énigme, ce n'est pas celle du mal, c'est celle du bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette méditation l'un et l'autre, Vincent Gallois?
Ah, j'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'on oppose à la question de Dieu, souvent on oppose à la foi en Dieu la question du mal, hein, alors qu'en fait ici elle soulève bien celle du, voilà, c'est, mais pourquoi y a-t-il tout ce bien qui demeure malgré le mal, hein? Et là, elle saisit cette occasion de la rencontre de Simon de Cyrène à la cinquième station, pour montrer l'émergence du bien au milieu de ce mal qui se déchaîne sur le Christ. Et c'est un contrepoint qu'elle nous donne de saisir. La véritable énigme, ce n'est pas celle du mal, c'est celle du bien. Je trouve que ça mérite d'être médité.
Et on peut citer aussi un autre passage avant de faire une deuxième pause. « Soudain, un courant d'air s'infiltre entre le bois et toi. D'où vient ce relèvement insensé? Pendant quelques secondes, tu te crois pourvu d'elle. Courbé et pivotant, tu aperçois un frère. » Et puis elle poursuit. On fait une deuxième pause et on vous retrouve. Cette exposition donc, est à retrouver à la Basilique Saint-Cernin jusqu'au dimanche de Pâques, dimanche 12 avril. Pour rappel, demain soir, l'inauguration, 18h30 en présence des artistes.
Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le chemin de croix 2020 de Saint-Cernin, c'est pour rappel le thème de l'émission de ce jour, avec en plateau Antoine Gamard, artiste, et Vincent Gallois, prêtre curé de la basilique Saint-Cernin, pour cette exposition donc, qui a commencé hier, Scriptura Crucis. On avance comme une manière de rentrer donc, dans ce temps liturgique. Pour rappel, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est aujourd'hui donc le mercredi des cendres qui marque l'entrée dans le carême. Allez, Vincent Gallois, pourquoi les cendres? Si vous deviez nous faire un petit rattrapage pour.
Souviens-toi que tu es nul. Poussière et que tu retourneras en poussière. Hein. Voilà, c'est ça les cendres. Hein. C'est d'abord le rappel de notre finitude, hein, et de notre finitude consécutive au péché, et d'une finitude voilà, douloureuse. Hein.
Et le péché, c'est quoi, juste pour ceux qui sont vraiment très loin?
Le péché, c'est le refus de la loi de Dieu, le refus de la loi d'aimer, tout simplement, de se démarquer de cette loi d'amour que Dieu, hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, et finalement se préférer soi-même contre Dieu, contre les hommes, c'est ça le péché. Et la cendre nous rappelle, eh bien, les conséquences du péché. Voilà, c'est la mort. Et en même temps, c'était dans l'histoire d'Israël aussi un signe de pénitence. On se couvrait de poussière, on se couvrait de cendres, une manière d'exprimer la pénitence. Et aujourd'hui, voilà, à cette heure-ci, dans pas mal d'églises, on est en train d'imposer les cendres. Dans toute la journée, il y a des messes partout dans Toulouse pour...
Avec une grande croix sur le front, donc c'est comme
avec,
ça,
voilà, on impose les cendres, grande, avec, on peut faire une forme de croix sur le front, où, c'est pas, la manière de les imposer est assez libre. Mais il y a deux paroles qui sont dites par le prêtre à ce moment-là, c'est « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière », en référence donc à la Genèse, puisque c'est la conséquence du péché, la mort, comme ça. Et la mort dans cette souffrance, dans cette solitude, dans voilà, la déréliction, l'abandon. Et puis, il y a une autre parole que le Christ a dite au début de son ministère, « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile », qui est justement le chemin que le Christ nous propose pour sortir du péché et de la mort. « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Et voilà, le prêtre, quand il impose les cendres, dit l'une ou l'autre de ces phrases pour que on vive ce temps de carême comme ce qu'il est, à la fois un temps de pénitence et de conversion.
Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. C'est donc l'affiche de cette exposition. C'est presque la plus dure, hein, en tout cas, à regarder parmi toutes vos toiles, Antoine Gamard. Donc cette fois, le fond en graffiti, toujours sur le même modèle. Hein.
Donc là, c'est des écritures rouges.
Ah, vous le décrivez,
rouges,
alors allez-y.
Des écritures rouges sur un fond sombre, gris foncé, très sombre. Et donc, oui, c'est, je pense, la station la plus dure, où la violence est totale.
Et alors,
troisième fois que Jésus tombe, et comment dire, là c'est chaud. Là on est dans le vif du sujet. Personne n'a envie d'être à sa place et c'est pas fini. Donc c'est chaud.
Et en surimpression, donc, ou en surimpression par-dessus, donc on aperçoit...
Et toujours Jésus chargé de sa croix, l'impression UV, le procédé mécanique qui intervient sur ce fond fait de graffiti, où c'est vraiment le cri est strident, tellement strident qu'il y a une accalmie qui va arriver, qui va déferler derrière.
Donc la croix là est presque noire, et puis il y a comme une masse, hein, comme écroulée justement, même si c'est, on l'a dit, hein, c'est pas des silhouettes qui sont tout à fait figuratives.
La masse blanche, il y a une forme d'écroulement, masse blanche. C'est Jésus, là il est vraiment à terre, hein, et il va se relever.
Vincent Galois, avant qu'on cite Marion Muller-Collard, qu'est-ce que vous y voyez éventuellement, qu'est-ce que ça appelle comme
commentaire ? C'est vrai qu'il y a une violence avec le contraste du rouge.
Ça dégouline sang.
Ça, voilà, on a l'impression vraiment c'est une écriture de sang. Et que ces graffitis qui font l'arrière-plan, c'est un petit peu aussi le cri de la haine que le Christ reçoit. Donc il y a vraiment une sorte... Enfin voilà, c'est la projection qu'on peut avoir de cette parole qui refuse la parole, en fait, de cette parole qui nie la parole. Et voilà, donc c'est vrai que c'est une affiche très... très forte, enfin c'est une image très forte, et c'est pour ça qu'on l'a choisie pour notre affiche, hein, parce qu'elle nous exprime vraiment le combat du monde contre le Christ.
Si je peux rajouter quelque chose, j'y vois, bon elle est très très dure, mais j'y vois aussi beaucoup d'amour dans cette image, parce que aimer c'est aussi avoir le courage d'être seul, et là je pense que Jésus est vraiment seul.
Et cet extrait donc de la méditation de Marion Muller-Collard, tu creuses ton sillon de silence, tu sais aussi que c'est à ton silence qu'on mesurera le poids de ta parole, je relis parce que c'est vraiment très beau, tu creuses ton sillon de silence, tu sais aussi que c'est à ton silence qu'on mesurera le poids de ta parole, et puis un peu juste après, mais ce silence est un abîme, et cet abîme donne le vertige. Alors pour la troisième fois tu tombes, et voilà la peur. Voilà, on sent bien aussi, hein, ce que vous disiez Vincent Galois tout à l'heure, cette femme aussi qui a beaucoup réfléchi ou travaillé sur le mystère du mal. Et il y a à la fois un poids dans ce silence, un sens, et en même temps un abîme et une terreur, hein, un peu des deux.
Et une ouverture, un silence pour la parole. Alors c'est vrai que c'est un texte très très beau, un texte exigeant qui demande à être servi. Je crois qu'on gagnera à le lire à haute voix, à le lire et à l'écouter à haute voix, parce qu'il a une densité qui réclame ce service-là. Et voilà, alors, tous les vendredis de carême, nous allons le méditer à la basilique Saint-Sernin à 15h. Et j'ai demandé à une personne qui est comédienne, justement, de servir ce texte pour qu'elle nous en donne la saveur.
Alors racontez-nous, et pour ça, Antoine Gamard, ça, vous disiez que c'est, pour vous, ça touchait au sublime, c'est les mots que vous avez utilisés hier.
Parce que les œuvres vont servir à la liturgie de l'Église, et donc c'est un moment où
donc,
tout le monde
croix,
est,
chaque vendredi.
Est bienvenu, c'est ouvert, plus, enfin, bon, c'est, donc il y a la partie, ça fait partie de, comment dire...
Du chemin de croix.
Pas du chemin de croix, c'est... Ça fait partie de l'Église, c'est un moment donné de l'Église, et je pense que c'est aussi un moment qui est ouvert, qui sert à rassembler, donc j'invite tout le monde à venir assister à ce chemin de croix tous les vendredis à 15h.
Voilà, vendredi à 15h, donc on s'arrête devant chaque station, devant chaque tableau en l'occurrence, et puis donc on se radie tout haut, donc cette méditation.
Voilà, tout à fait, c'est la méditation donc tous les vendredis à 15h, et c'est vrai que c'est aussi pour cela que j'ai demandé à Antoine de faire ce travail. C'est à la fois une exposition du travail d'Antoine, mais c'est aussi le travail d'Antoine au service de la prière de l'Église. Donc il y a à la fois les deux, il y a Antoine Gamard qui nous présente son travail et qui le présente dans l'Église et qui nous présente sa méditation du chemin de croix, et voilà, dans la liturgie que le peuple chrétien aime à célébrer pendant le vendredi de carême, eh bien nous recevons cette méditation d'Antoine et de Marion Muller-Collard pour nous faire prier. Alors je suis heureux aussi, parce que c'est du point de vue religieux, c'est pas sans valeur qu'une femme protestante aide une communauté chrétienne à s'approprier le mystère du Christ pendant ce temps de carême.
Et un peintre agnostique, puisque c'est comme ça que vous vous définissez.
Oui, je trouve que c'est un moment de rencontre, d'ouverture à l'autre, qui fait sens et qui, à notre époque, est porteur d'espoir.
Alors ça me dit une chose, c'est que le mystère de la passion n'appartient pas qu'aux catholiques pratiquants, voilà, il appartient à tout le monde. Et alors bien sûr, Marion Muller-Collard est chrétienne et elle le vit avec la foi qui est la sienne, est profonde et travaillée, on le voit bien. Mais aussi, Antoine nous dit ben voilà, que ce mystère le concerne. Et que ce mystère l'a fait bouger dans sa vie aussi. Hein. Ça, je crois qu'il y a... Tu as eu une expérience en faisant ce chemin de croix.
Ce projet est... Enfin bon, je vous l'avais déjà dit, je peux le redire.
Je ne sais pas vous poser la question, parce que vous disiez que vous ne vouliez pas parler de vous.
C'est
non,
ce
mais
projet
allez-y.
Qui... Ça m'a remis debout parmi les hommes. Cette exposition, elle est... J'espère que ça fera écho et que je pourrai partager ce moment avec tous les spectateurs qui viendront à Saint-Sernin.
J'aimerais qu'on s'arrête donc pour finir en cette fin d'émission sur la 15e station. Alors la 15e station est un peu particulière, elle n'est pas dans votre livret catalogue. Décrivez-la nous, Antoine Gamard, s'il vous plaît, cette fois. Alors, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que c'est que cette 15e station?
Alors la 15e station, c'est la résurrection du Christ, donc généralement, on représente les 14 stations. La 15e peut être représentée, mais ne l'est pas forcément. Et à Saint-Sernin, vous verrez une couronne d'épines suspendue au cœur de l'église, au-dessus du transept. Et
couronne d'épines bien particulière,
de
par sa taille et puis la matière.
Je pense qu'il ne faut pas trop la décrire. Parce que il y a l'effet de surprise, je voudrais pas le gâcher et j'invite vraiment tout le monde à venir
Il y a de la lumière, il y a de la lumière qui traverse en tout cas la couronne d'épines.
Cette couronne d'épines suspendue a un sens très particulier pour moi parce que c'est quelque part je donne ma définition du beau. Et il se trouve que cette 15e station est également la résurrection du Christ.
Alors il n'y a pas de méditation Marion Muller-Collard, mais si vous deviez finir en cette fin d'émission, Vincent Gallois, sans vous prendre pour Marion Muller-Collard, qu'est-ce que vous apporteriez comme méditation? Et sans tout dévoiler de cette 15e station.
Alors, cette 15e station, on peut la voir donc à la basilique, elle est présentée. Et voilà. Alors ceux qui ont Instagram peuvent la voir aussi sur Instagram. Sur le compte de la basilique. Cette 15e station, je crois que c'est tout simplement la parole vivante. Voilà, la parole vraie qui est une parole qui fait vivre, qui est une parole vivante. Et comme Antoine l'a dit, voilà, ce travail l'a remis debout. Voilà, la 15e station, c'est même plus qu'une station, parce que c'est le mouvement de la résurrection qui naît. Une station, c'est à l'arrêt, donc là, le mouvement de la station, le mouvement de la résurrection, il est sans arrêt. C'est celui qui remet l'homme debout. C'est la parole qui relève.
Eh bien, Scriptura Crucis, c'est donc l'exposition à voir à la Basilique Saint-Sernin. Vous avez tout le temps du carême et même le Triduum Pascal pour y aller, puisque c'est une exposition qui est jusqu'au 12 avril. Et demain, pour rappel, donc inauguration 18h30 en présence des artistes Antoine Gamard. Et il y aura Marion Muller-Collard.
Alors, hélas, Marion Muller-Collard, c'est décommandé en raison d'une conférence qu'elle donne en même temps. Dans le cadre de la Commission Sauvée.
Commission Sauvée, donc sur les abus sexuels dans l'Église. Antoine Gamard, vous voulez rajouter quelque chose très rapidement ?
Oui, un dernier mot. J'invite vraiment tout le monde à venir à la Basilique Saint-Sernin pour voir cette exposition et rencontrer le message de Jésus. Et je tiens à dire que finalement, cette exposition sera vivante et existera grâce à vous tous, chers auditeurs, si vous venez. Et j'espère que de tout mon cœur que vous viendrez voir cette exposition.
Voilà, rendez-vous demain, 18h30, pour l'inauguration Basilique Saint-Sernin. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.
Cette émission est réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.